Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre s'intitule « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Arnaud Benedetti, nous allons tenter de faire une rétrospective de l'année écoulée et bien sûr évoquer l'élection présidentielle qui vient. Et finalement, cela nous renvoie à la question de votre livre sur le grand malaise du pouvoir. Lors des dernières élections régionales, la participation avait été très faible. Pourquoi cette désaffection des Français pour les élections et pourquoi considérez-vous que les politiques sont en train de mourir ?
Alors écoutez, c'est un sujet majeur. En effet, la désaffection électorale n'est pas un phénomène nouveau, sauf qu'elle prend aujourd'hui, disons, une ampleur qui apparaît tout à fait inédite si l'on regarde, disons, notamment les dernières élections régionales. Mais on voit que depuis maintenant près de 25 ans, on a un recul constant, élection après élection, avec certes parfois des bribes de retour à une forme de participation électorale un peu plus intense, mais globalement, on a une tendance à la baisse. Ça, c'est une réalité qui s'impose, toute élection confondue, avec une petite exception pour l'élection présidentielle, quoique même sur l'élection présidentielle, on a une petite baisse. Donc, cette réalité, elle doit être interrogée, c'est ce que j'interroge dans mon ouvrage. Je l'interroge en la couplant à une autre réalité, c'est la dégradation de l'image du politique, là aussi, que délivre un certain nombre d'études d'opinion. Je pense notamment aux études du CEDICOF, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion publique française, de la Fondation nationale des sciences politiques, cette grande étude barométrique où chaque année on interroge les Françaises et les Français sur leurs relations aux institutions. Et on voit là aussi que l'image générale et générique des politiques se dégrade. Il y a trois phénomènes peuvent expliquer cette dégradation. Premier phénomène, le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment, c'est-à-dire que finalement l'instrument politique majeur que constitue l'État-nation n'est plus en mesure de répondre à un certain nombre de ses missions, celles notamment à la fois de protéger mais également de préparer l'avenir, donc un sentiment d'impuissance. Deuxième élément qui explique aussi peut-être cette désaffection, c'est que un grand nombre aujourd'hui de segments de l'opinion considèrent que les offres politiques qui sont sur le marché électoral ne correspondent pas à leurs besoins et à leurs attentes. C'est ce qu'on appelle la crise de la représentation. Et on l'a vu d'une certaine manière s'exprimer, parfois de manière un peu vive, voire violente, à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Et troisième phénomène, c'est un phénomène qui semble tirer la politique de plus en plus vers une forme de technocratisation des décisions, de technocratisation des enjeux. C'est-à-dire que les enjeux politiques étaient des enjeux qui faisaient l'objet d'un débat dans la sphère de la délibération en démocratie, sont petit à petit extraits de cette sphère de la délibération, de cette sphère de la démocratie, pour être in fine traité par des experts et selon des modalités techniques. Je prendrai un exemple assez simple, qui est l'exemple le plus visible et le plus criant, c'est la question de la monnaie. Aujourd'hui, la monnaie n'est plus un sujet politique de fait, puisque elle est devenue un attribut qui était un attribut régalien, un attribut d'une banque centrale indépendante. La banque centrale indépendante qui est née du traité de Maastricht.
Arnaud Benedetti, on est en plein débat sur l'élection présidentielle, mais la plupart des solutions que proposent les candidats se heurtent à la réalité, à une réalité, la mondialisation, les obligations que fait peser l'Union européenne sur les États, mais aussi la puissance des GAFAM, des compagnies qui sont plus puissantes que les États. Le champ d'action des politiques paraît finalement assez mince. Est-ce que c'est une des raisons qui entraîne le doute des Français sur les promesses qu'on leur fait?
Oui, parce que si vous voulez, en France, la politique est au cœur de la formation de la nation. Si vous voulez, l'une des spécificités françaises, c'est que la société nationale a été créée d'abord par l'État, et ça date d'ailleurs, ça date pas de la République, hein, ça date des rois de France, hein, même ça remonte jusqu'aux rois de France. Donc il y a une attente en matière de politique qui est certainement beaucoup plus forte en France que dans d'autres pays. Dans d'autres pays, la société s'est créée d'abord par l'économie, voire par la culture. C'était le cas en Italie, en Allemagne, ça a été le cas dans un certain nombre de pays anglo-saxons et puis du Nord par l'économie. En France, c'est vraiment l'État, donc c'est vraiment le politique qui est à l'origine de la société, qui crée la société, qui crée le contrat social et le pacte social. Ça, c'est important. Mettez le doigt sur un sujet qui est essentiel et que j'aborde dans mon livre, c'est la question des interdépendances. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde l'histoire finalement de l'humanité, c'est une histoire de la montée en puissance permanente des interdépendances. C'est ce qu'explique d'ailleurs un grand sociologue comme Norbert Elias. En l'occurrence, la mondialisation n'est qu'une des illustrations de cette loi des interdépendances. Et la mondialisation, elle vient rogner toujours un peu plus les marges de manœuvre de cet outil politique très spécifique qui apparaît à peu près au XVIe siècle, qui se développe encore plus à partir du XVIIe et du XVIIIe, qui est l'État-nation. Alors, ça prend évidemment, si vous voulez, des formes différentes, cette dégradation des marges de manœuvre des États-nations. Il est clair que pour un pays comme les États-Unis, voire pour la Chine, on voit que les marges de manœuvre subsistent. Elles existent, y compris pour la Russie. Mais pour les États-nations européens, on le voit bien, notamment en France, on voit que ces États perdent un certain nombre de capacités à maîtriser et à décider leur destin. Ils sont très dépendants d'instances qui sont des instances supra-étatiques, supranationales, qu'il s'agisse de l'Organisation mondiale du commerce, qu'il s'agisse du FMI, qu'il s'agisse de l'Union européenne. Et puis, à côté de cela, et vous avez tout à fait raison de le signaler, vous avez de nouvelles formes d'organisation qui sont en train d'émerger, qui sont des organisations qui, elles, sont interterritoriales ou transterritoriales, qui disposent à la fois de capacités économiques, de capacités technologiques, de capacités culturelles, de capacités à relier un certain nombre d'individus entre eux, comme les réseaux sociaux par exemple, et qui viennent concurrencer directement les organisations politiques telles qu'elles se sont créées depuis plusieurs siècles. C'est le cas des GAFAM, mais c'est aussi par exemple le cas des grands fonds de gestion, comme par exemple comme Vanguard ou comme BlackRock, qui ont des capacités économiques qui font que les chefs d'État aujourd'hui cherchent à s'attirer les faveurs de ces grands fonds, ne serait-ce que pour que ces fonds investissent dans leur économie. Mais ces fonds ont évidemment des exigences dans la gouvernance des entreprises, ont des exigences dans les politiques publiques en matière économique des États, et viennent en effet là aussi concurrencer les formes traditionnelles du politique.
Arnaud Benedetti, nous avons connu une époque où les responsables politiques suscitaient l'admiration des Français. Je pense à De Gaulle ou Mitterrand. Aujourd'hui, on voit des ministres dans des situations assez ridicules sur les réseaux sociaux. Je me demande aussi si les primaires n'ont pas fait du mal à la politique, puisque, sans vouloir être désobligeant, on a vu des seconds couteaux prendre la lumière et peu de femmes et d'hommes d'État.
Alors la réalité, c'est qu'en effet, si vous... Les figures que vous venez de citer, qu'il s'agisse du général de Gaulle ou de François Mitterrand, sont des figures qui ont une autre trajectoire historique aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce sont des hommes qui sont nés pour l'un à la fin du 19e siècle, donc qui a connu deux guerres mondiales, l'autre qui est né justement pendant la Première Guerre mondiale, François Mitterrand, qui ont connu des événements, j'allais dire, d'une autre épaisseur parfois que des générations qui ont pu quand même être socialisées dans la période soit des Trente Glorieuses, soit post-Trente Glorieuses, en tout cas en France. Donc on a des expériences historiques très différentes, donc avec une écorce humaine qui n'est pas tout à fait la même. Donc ça, je crois que c'est à prendre en considération aussi, également, pour juger et jauger, finalement, parfois la valeur des individus. Mais la réalité, c'est que, oui, en effet, vous avez aussi l'exigence presque d'un système médiatique qui s'est imposé aux hommes politiques et qui fait que ils sont aujourd'hui, finalement, contraints par une hyper-visibilité qui est permanente, qui d'ailleurs finit par leur nuire, parce que quand on est hyper visible, on perd de la distance, on perd de la capacité à un moment donné à pouvoir réfléchir même par rapport aux événements, on est dans la réaction à chaud immédiate sur tout et n'importe quoi, donc le système, j'allais dire, médiatique tel qu'il s'est construit depuis maintenant une quinzaine d'années, a récemment accéléré non seulement à la banalisation, mais à la dégradation de l'homme politique, de la femme et de l'homme politique, de l'image de la femme et de l'homme politique. Ça, c'est une réalité. Il y a un autre aspect qui est très important à prendre en compte, c'est que les formations des hommes politiques ne sont plus tout à fait les mêmes que celles qui étaient en cours il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Globalement, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que nous avons des femmes et des hommes politiques qui, très souvent, ont une absence, par exemple, de culture générale. Vous savez, le général de Gaulle, c'est quelque chose d'assez juste. La culture générale, c'est finalement ce qui prépare à commander. Aujourd'hui, on assiste à l'arrivée sur le marché politique d'acteurs qui n'ont pas des formations, forcément des formations de culture générale, n'ont pas forcément des formations historiques, n'ont pas forcément des formations littéraires. Et c'est vrai que toute l'histoire de la République, depuis la Troisième République en France, a donné lieu au niveau politique, en tout cas, à une forme d'école d'exigence en matière de sélection des cadres républicains. On peut tout dire, des politiques qu'ils ont pu mener, on a le droit de les contester, mais la réalité, c'est qu'on avait un personnel politique qui était un personnel politique qui était un personnel politique d'élite, d'excellence, en tout cas, dans ses leaders. Aujourd'hui, la perception qu'ont un certain nombre de Françaises et de Français, c'est que finalement, les élites, pour aller très vite, les élites de la nation ne vont plus forcément vers la politique, parce que justement, la politique, peut-être, n'apparaît plus pour ces élites comme un moyen de se réaliser aussi.
Arnaud Benedetti, l'année politique en France a été marquée par la candidature d'Éric Zemmour, un homme sans parti politique qui n'a pas réussi à débaucher d'ailleurs des ténors de la droite ou de l'extrême droite, contrairement à Emmanuel Macron qui en 2016 avait constitué un pôle nouveau autour de lui avant se présenter à l'élection présidentielle, nécessité de gravir les échelons. C'était l'aboutissement d'une carrière politique. Aujourd'hui, on peut être chroniqueur à la télévision et devenir présidentiable.
Oui, alors c'est vrai que il y a aujourd'hui une transformation récemment de l'accès à la scène politique. La réalité, c'est que dans l'histoire profonde de la République, il fallait accéder l'escalier républicain marche à marche, en se faisant élire élu local, puis éventuellement élu national, puis en exerçant des responsabilités politiques au niveau national, puis en étant éventuellement ministre, pour avoir le droit légitime d'accéder, ou implicite en tout cas d'accéder à une candidature à la présidence de la République, en tout cas sous la Ve République. Les choses ont manifestement changé. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons, hein. Il y a le fait d'abord que les offres politiques du gouvernement aujourd'hui, on l'a vu en 2017, se sont effondrées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a une accélération du calendrier politique, notamment avec le quinquennat, qui tend d'une certaine manière là aussi à transformer un peu les règles du jeu politique. Il y a aussi cette réalité que c'est maintenant quelque part le tribunal médiatique, que le tribunal politique, le tribunal démocratique, qui tend à créer la légitimité politique d'un certain nombre d'acteurs. D'ailleurs, on le voit, hein, même jusque dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, de fait, il y avait beaucoup moins d'élus et beaucoup plus de gens issus soit de la société civile, soit de l'expertise. Donc on a aussi ce phénomène-là qui s'est manifesté au-delà du seul phénomène d'Éric Zemmour au sein même du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est une évolution. Est-ce que c'est une évolution dont il faut se féliciter? Seul l'avenir nous le dira, mais ce qui est clair, c'est que l'expérience en politique et l'expérience politique en politique est quand même un facteur de légitimation personnelle politique qui était profondément ancré dans les représentations des Françaises et des Français jusque-là. Sauf que la réalité, c'est que aussi ce qui est en train de changer, c'est que le rapport à la politique d'une grande partie de nos compatriotes, voire même une majorité de nos compatriotes, 2050 est certainement moins structuré qu'il ne l'était. En d'autres termes, que les générations qui arrivent aujourd'hui et qui vont être amenées ou à être appelées à voter n'ont pas la même relation à la politique que la génération de nos parents ou de nos grands-parents. C'est une donnée alors, dont on peut bien évidemment considérer qu'elle ne permet pas d'avoir un exercice démocratique qui soit un exercice démocratique sain, mais c'est une donnée avec laquelle il faut compter aussi pour expliquer ce phénomène.
Pour en revenir à l'élection présidentielle, Arnaud Benedetti, actuellement, 4 candidats sont envisagés pour le second tour d'après les sondages. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Est-ce qu'une surprise est encore possible ?
Écoutez, ce qui frappe aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'est pas fondamentalement nouveau, mais qui semble s'ossifier, se densifier, s'accélérer, c'est l'extrême instabilité, l'extrême volatilité l'opinion publique. Aujourd'hui, vous avez à peu près une moitié de Françaises et de Français qui, à ce stade, à l'heure où nous parlons, disent ne pas s'intéresser encore à l'élection à venir. Donc, on peut imaginer que une fois que ces gens se mobiliseront leur attention, mobiliseront leur intérêt pour cette élection, les lignes peuvent encore bouger et peuvent évoluer. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout, semble se dégager un certain nombre déjà de lignes force qui montrent qu'il y a un problème à gauche. La gauche n'a pas été capable pour l'instant de résoudre son problème de leadership et son problème de positionnement politique. Il y a aujourd'hui manifestement plusieurs gauches sont-elles irréconciliables, comme l'a encore dit Manuel Valls il y a 24 heures ou 48 heures, ou peuvent-elles trouver un point d'accord? Ça, c'est une question qui reste ouverte, mais à 4 mois de l'élection présidentielle, au compte tenu de l'accélération du calendrier, on peut quand même légitimement en douter. Ce qu'on note, la deuxième leçon, c'est que le point très fort de la droite ou de l'extrême droite dans l'opinion publique, avec cumulé les intentions de vote pour Zemmour et celle de Marine Le Pen, un score qui est quasiment inégalé dans l'histoire de la Ve République, de près de 30% dès le premier tour, mais avec une fracture et une division qui est plus liée à des questions de personne qu'à des questions finalement de fond, même si on peut considérer que Marine Le Pen est en train malgré tout de se recentrer. Et puis, troisièmement, vous avez un axe qui est celui que, par exemple, Gérald Sedmarie qualifierait d'axe sécuritaire, qui semble aujourd'hui se cliver autour de deux personnalités, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le sortant, devrait quand même annoncer sa candidature en début 2022, et puis Valérie Pécresse, qui est la bonne surprise des Républicains, si je puis dire, la bonne surprise pour les Républicains, parce que les Républicains qui ne semblaient pas en mesure de pouvoir se mettre d'accord au moins pour désigner une candidature en respectant une forme d'unité, ont manifestement franchi cette première étape. Après, bien évidemment, tout cela reste encore extrêmement aléatoire, et je pense que cette campagne ne nous a pas livré encore toutes ces surprises et tous ces enseignements.
Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et votre dernier livre s'intitule « Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.